Aujourd'hui, direction le 9e arrondissement de Paris pour aller à la rencontre de Gabriel Gauthier, un homme brillant qui a troqué sa casquette de publicitaire pour celle de directeur de la rédaction avec son projet Big Bang.
Le Red Bulletin.
Bonjour Gabriel Gauthier, vous êtes publicitaire, fondateur de l'agence Jésus et Gabriel. Et avec Franck Hannes, le fondateur de Sopress, vous avez lancé le magazine Big Bang, un almanach à mi-chemin entre le rêve et l'information, un volume de 340 pages qui compte 12 utopies nécessaires et où le champ des possibles est infini. Est-ce que vous pouvez me raconter la genèse du projet ?
Mais oui, absolument. Alors, Big Bang, c'est une vieille obsession. C'est-à-dire que c'est un projet que je traîne depuis presque 15 ans. Et en fait, l'idée m'était venue au retour d'un voyage à Marseille où j'étais convaincu que la place de Marseille n'était pas la bonne et que Marseille devrait être la capitale de la France. Alors peut-être pas de façon forcément formelle, mais au moins au travers d'un mouvement, d'une pétition qui réclamerait ça. Et de fil en aiguille, le temps du trajet du TGV, je me dis mais il faudrait promouvoir ça dans une tribune, non, mieux que ça, dans un magazine. Ah bah oui, bah ce serait bien que le magazine soit un peu un magazine comme ça, qui lance des utopies, des rêves comme ça politiques. Et en arrivant, je me suis dit, il faut que je fasse un magazine. Donc j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin. Il y a eu plusieurs moutures, etc. Au départ, je pensais en faire un mensuel, puis un bimensuel. Il y a eu plusieurs équipes, il y a eu des projets abandonnés, il y a beaucoup d'argent qui a été perdu. Et puis voilà, et je continuais toujours avec cette idée. Puis un jour, j'ai rencontré une fille chez Nova qui m'a dit « Ton mensuel, ça coûte trop cher, tu vas te ruiner la santé. Débarrasse-toi de ce fantasme et fais un almanach. Mets tout d'un coup, balance tout d'un seul coup. » Et j'ai rebondi sur cette idée, je lui ai dit « Tiens, ce serait marrant de faire une reliure de plein de mensuels qui n'existent pas encore. » Et de faire une reliure à l'avance des 12 mensuels à venir de l'année qui vient. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais lancer l'almanach Big Bang. Et là-dessus est tombé le Covid. Je me suis dit, je suis maudit, jamais j'arriverai à faire ce truc. Et j'ai appelé Franck. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'aides. Parce que je lui avais parlé déjà du projet 10 ans avant. Et à cette époque-là, il n'avait pas encore fait Society. Et comme il voulait absolument le faire, c'était compliqué de mener plusieurs projets en même temps. Et du coup, il m'a dit « Ok, on lance ce truc ». Ça devait sortir à la fin décembre 2020. Et puis, comme il y a eu une deuxième vague de Covid, on l'a repoussé, en se disant « Le 15 avril 2021, on devrait être débarrassé du Covid ». Manque de bol, c'est tombé en plein demi-confinement, puisque les gares étaient fermées, beaucoup de kiosques étaient fermés. Donc, on est tombé un petit peu en porte-à-faux comme ça, mais au moins le projet était sorti.
Quand on ouvre les pages de Big Bang, du coup, on tombe sur ces utopies qui sont basées sur des réalités. On retrouve énormément d'éléments de fiction. Et puis aussi des hypothèses qui mettent en exergue les problématiques et les sujets houleux de notre société actuelle. Est-ce que c'est important pour vous de faire rêver les gens à travers l'information ?
L'idée, c'est pas tellement de les faire rêver que de les faire réfléchir. Alors, sous une forme... je dirais plus narrative que onirique, parce qu'une idée c'était quand même de faire quelque chose sous le biais de l'entertainment. Mais en gros, j'ai défini Big Bang comme un projet d'utopie politique. C'est-à-dire que si c'était que de la prospective, on aurait dit voilà ce qui va arriver. Si c'était de l'uchronie, on se serait dit voilà ce qui aurait pu arriver. Et si c'était de la science-fiction, on dirait et si ça se passait comme ça. Alors là, la grosse différence, c'est plus le « on veut que ça se passe comme ça ». C'est-à-dire que c'est des projets auxquels on tient, on se dit « ça a du sens, il faut que Marseille soit capitale de la France ». C'est-à-dire qu'en tant que tel, c'est pas de la science-fiction, ni de la prospective, ni de l'uchronie, parce qu'on ne dit pas « ça va arriver », en fait, on n'en sait rien. Non, on veut que ça arrive, c'est-à-dire qu'on se dit « ça a du sens ». Les États-Unis d'Afrique, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur, puisque partant du constat que l'Afrique, c'est le continent béni des dieux, le meilleur climat, la plus grande richesse culturelle, à tous les niveaux, mais qui souffre qu'une seule chose, c'est déjà une malformation politique héritée du colonialisme. Et donc, cette idée d'États-Unis d'Afrique, c'est un projet auquel je tiens. Donc, c'est pas « et si ça se passait », c'est « on veut que ça se passe », etc., etc. Jusqu'à l'invasion de la Suisse, qui est la plus un gag, mais qui est quand même aussi... une idée qui est, tiens, ce serait bien si au lieu d'essayer d'équilibrer la balance des comptes, on allait prendre de l'argent là où il y en a. Donc à chaque fois, il y a sous l'angle de l'entertainment, mais quand même une vraie idée de dire, il faut que ça se passe comme ça pour que les gens se disent, ah oui, tiens, c'est pas bête. Et d'ailleurs, l'idée de Marseille, capitale de la France, fait son chemin, parce qu'on en voit les gens là. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, finalement, ce serait pas si mal, jusqu'à, j'ai vu Fabien Roussel qui proposait, et c'était une de nos propositions d'ailleurs, d'installer le ministère de la mer au Havre, par exemple. Et cette grande décentralisation, en fait, parce que c'est ça la question qui est posée avec Marseille, capitale de la France, c'est comment on peut réussir par des actes symboliques les grands projets de société, comme la décentralisation. Plus loin, on avait les États-Unis d'Afrique posent la vraie question de la décolonisation, c'est-à-dire des frontières qui ne soient pas artificielles et dessinées sur des plans en Europe, mais conformes à une réalité, je dirais, culturelle, du terrain, etc., etc.
La fantaisie, elle est clairement au cœur de Big Bang. Il y a un scénariste qui s'appelle Valentin Nujaim qui a écrit « Est-ce que rêver d'une utopie, ce ne serait pas déjà se mettre en rébellion face au monde ?» D'une certaine manière, est-ce que cette phrase résonne avec la manière dont vous avez conçu cet almanach ?
Ouais, je pense, parce que je crois qu'il faut... Il faut sortir des sentiers battus, des raisonnements, parce que c'est ce qui fait qu'on se dit les frontières existent parce que c'est comme ça. Il y a les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y a pas une méchanceté, il n'y a même pas une ignorance crasse. Il y a juste ce qu'on appelle une idéologie, c'est-à-dire, comme le définissait Althusser, ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Alors que l'idée, c'est de les voir en voyant les choses telles qu'elles pourraient être. C'est aussi une façon de voir les choses comme elles sont réellement. Et donc, la réalité elle-même, d'ailleurs, est une sorte de rêve. Il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont écrit là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un rêve? Est-ce que la réalité elle-même n'est pas non plus quelque chose complètement idiot, complètement brindingue? Donc c'est ça qu'on met aussi en évidence. C'est-à-dire qu'à ouvrir les portes du possible, ça permet aussi de sortir des contingences. On le voit d'ailleurs, malheureusement, c'est souvent acculé ou dos au mur. Quand il y a des guerres, des catastrophes, on se rend compte que l'humanité est capable de sortir des ressources insoupçonnées pour inventer des avions qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, etc. Pour le pire, inventer des bombes capables de démolir des villes entières. Mais on se rend compte que en sortant des chemins balisés, beaucoup de choses sont possibles.
On parle politique, on parle de sociétés bien établies, bien construites, qui arrivent à sortir, comme vous venez de le dire, des choses extraordinaires en cas de contexte de guerre, entre autres, surtout aujourd'hui. Néanmoins, il y a aussi des sujets qui sont un peu plus légers en apparence, notamment autour de la vie sexuelle, puisque je crois qu'il y a une utopie qui s'appelle « Orgasme pour tous », et je cite ici Jocelyn Borda, qui l'a écrit, qui dit « Demain, le sexe sera joyeux, libre, ludique, multidimensionnel. Demain, le sexe sera une fête et l'orgasme au rendez-vous. » Multidimensionnel, parce qu'après tout, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour préparer demain. Et demain, où est-ce qu'on est ?
Bah, justement, enfin, là, on parlait de sortir des sentiers battus. Effectivement, la bigamie, le couple, la fidélité, typiquement un dogme que personne ne veut remettre en cause, de même que la filiation, etc. Alors, voilà, encore une fois, ouvrir des hypothèses et se dire, tiens, est-ce que le sexe est forcément lié à la sexualité ? Est-ce que les métavers, justement, ne pourraient pas s'ouvrir à des formes de jouissance infinie ? C'est le genre de questions qu'on veut poser. Mais ce n'est pas que de la légèreté, parce qu'on voit que remettre en cause la cellule, finalement, homme-femme, c'est remettre en cause la famille, c'est remettre en cause tout un tas de choses. On le voit d'ailleurs avec les nouvelles façons d'envisager le genre, par exemple, aujourd'hui, qui bousculent. Les gens sont très nerveux, voire assez violent là-dessus, parce que ils le sont, non, ils le sont pas parce que ils se sentent heurtés, mais parce que leur bon sens est malmené, et donc quand les gens n'ont plus de repères, ça les chagrine. Donc on voit bien qu'on est là sur un domaine plus de gang mental, de pensée préétablie que de vérité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de définir comme ça des possibles. Et c'est vrai que si sexuellement les gens étaient plus heureux, en tout cas s'ils se posaient moins de problèmes, on pourrait imaginer qu'effectivement il y aurait moins de conflits, voire moins de guerres. Enfin, on sent par exemple que dans la guerre qui se déroule là, à quelques milliers de kilomètres d'ici, on sent qu'il y a quand même beaucoup de testostérone derrière tout ça, des deux côtés d'ailleurs. On voit quand même qu'on a un président ukrainien qui est assez fier de se montrer en t-shirt, etc., qui n'a pas des propos toujours réfléchis. Et puis en face, pareil, un fou furieux quand même qui s'est conclu longtemps à se montrer en photo torse nu, en tenue de judo, etc. On voit quand même qu'il y a quand même aussi beaucoup d'irrationnel dans la réalité. Donc mettre de l'irrationnel dans l'utopie, finalement, c'est un bon équilibre, quoi.
Big Bang, c'est aussi l'occasion de faire réfléchir, de déconstruire des schémas de pensée. Et c'est aussi renverser deux pôles, par exemple. C'est renverser deux types de couleurs de peau. C'est aussi renverser le monde du beau et le monde du moche.
Oui.
Vous avez écrit dans l'édito avec Vincent Rioux, « Tous petits, tous moches, tous égaux ». Donc ça, c'est le nom de l'utopie. Et je cite... Sur l'échelle du mieux idéal, le petit et moche doit l'emporter. Et que ce sera moins qu'un choix, une nécessité. Pourquoi ?
Bah parce que à la course au beau, on sera toujours perdant, parce qu'il y aura toujours une surenchère. Alors qu'à se contenter du moche, finalement, il y aura une espèce comme ça d'égalitarisme qui rendra tout le monde un petit peu moins nerveux, un petit peu plus paisible. Et puis après, tout ça est quand même très relatif. C'est-à-dire que même dans les plus belles descriptions des plus beaux poètes, qu'est-ce qui nous dit qu'un nez droit, des narines, une oreille bien troussée, finalement, peut être assez aussi atroce qu'un champignon, qu'une tête de poisson qu'on trouve au bord d'une plage, quoi. Enfin, tout ça est quand même extrêmement relatif. C'est la biologie qui nous fait trouver qu'un être peut être beau, donc et le marketing qui nous fait définir des canons de beauté qui sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais on voit d'ailleurs que même dans les romans de Stendhal, quand le héros tombe amoureux d'une femme, il la décrit en étant un peu grasse avec une fine moustache sur les lèvres, parce qu'à cette époque-là, on aimait bien les femmes qui avaient un duvet, par exemple. Et aujourd'hui, les femmes doivent... Enfin, il y a eu un dogme, en tout cas, qui a duré et qui dure encore, comme quoi le poil était quand même le mal à proscrire absolument. Donc il y a dans cette subjectivité, pardon, une injonction qui est assez normative, et on se disait qu'effectivement revenir à une sorte de laisser-aller esthétique sur la tête que pouvaient avoir les gens, leur taille, etc., donnerait une sorte de décontraction comme ça qui pouvait être intéressant. La biologie semble nous donner raison, puisqu'on a vu effectivement comme cette tribu de nains en Amazonie qui résistait à des grandes maladies, que finalement la vérité et la perdurance de la race humaine étaient plus à côté du côté de l'homme patatoïde que du type bien volé.
Cette nouvelle, elle m'a fait penser à cet ouvrage qui a été publié, je crois, l'année dernière par la journaliste de mode Alice Pfeiffer, qui s'appelle « Le goût du moche », où aujourd'hui, quand on regarde la Fashion Week à Paris, à Milan, Londres ou New York, vraiment, on a cette impression qu'en fait, les standards sont en train de laisser place à de nouveaux, notamment en remettant ce moche au cœur même des collections et surtout du casting des modèles. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle « Tous petits, tout moches », on parle d'un concours qui s'appelle le concours Mr. Ugly Pageant, qui a lieu au Zimbabwe et qui a été organisé par David Machois, et qui est pour le coup un concours qui existe véritablement, tout comme la création de cette agence de mannequins berlinoise qui s'appelle Misfit Model, par un certain Delkin, qui je crois faisait partie également de cette industrie de la fashion, de la mode, comme on dit. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la célébration du moche lorsqu'on sait qu'il suffit que d'un seul pas pour tomber dans l'univers du freak.
Oui, bien sûr. Bah, après, dans l'univers de la mode que vous citiez, effectivement, c'est quoi le moche, quoi ? C'est ça la question que ça pose. Est-ce qu'une loque, c'est moche ? Est-ce que ça peut pas, d'un seul coup, en le mettant sur un catwalk, devenir la référence ? C'est un peu comme la définition de la saleté ou de la crasse. Il y a un philosophe qui disait, c'est quoi la crasse ? C'est de la matière au mauvais endroit. Si vous prenez de la terre, c'est noble, mais de la terre sous les ongles, c'est sale. Donc on en arrive un petit peu là. C'est-à-dire qu'une loque sur un clochard, les gens font deux pas de côté, mais la collection Clochard qu'avait lancée Bernard Arnault avec Galliano il y a quelques dizaines d'années se vendait des milliers de dollars. Donc tout le débat est là, et le concours dont vous parliez, là, le concours des gens qui faisaient des grimaces, etc., ça nous rappelle le carnaval où les beaux mettaient des costumes, mettaient des masques de lait, se mettaient des fausses bosses, etc., pour rappeler à chacun que... D'ailleurs, c'était très politique, hein, le carnaval, il ne faut pas l'oublier, les riches devenaient pauvres, etc. Il y avait beaucoup de crimes, d'ailleurs, pendant les carnavals, parce qu'on en profitait, que le puissant était déguisé pour le trucider, comme ça pouvait passer inaperçu. Mais il y avait une façon assez philosophique, assez vertueuse, de rappeler que la vie tournait, et que les riches d'aujourd'hui pouvaient être les pauvres de demain, et inversement. Donc, donc ça pose la question de la relativité des choses. Et alors, il y a quelque chose que j'ai lu hier soir dans un bouquin, justement sur une nouvelle histoire du monde comme ça, et qui montre qu'effectivement, les sociétés ne se sont pas toujours agrégées pour donner des États et que l'histoire se mêle de plusieurs formes. Et il y a une société précolombienne, sur la péninsule du Yucatan, qui s'appelait la civilisation Moche, en espagnol Moche, et qui était une civilisation avant même les Mayas, donc avant même les Incas, parce que les Mayas les ont précédés. La civilisation Moche, donc, qui était une société de femmes, qui était gouvernée par des femmes, et sur un régime totalement démocratique, presque communiste. Donc c'est assez drôle de se dire que la civilisation Moche était la civilisation ultra vertueuse, quoi. Donc on pourrait décréter l'Empire Moche aujourd'hui, ce serait quand même extrêmement intéressant.
Pour terminer sur ces quelques mots, est-ce qu'il y a une utopie que vous aimeriez se voir réaliser ?
Le propre de l'utopie, c'est d'être réalisé. C'est-à-dire que un rêve, une science-fiction, c'est quelque chose qui est de l'ordre du non-réel. Prenez Kadic, prenez le maître du haut château, etc. C'est des inversions, c'est des rêves de civilisation. L'utopie, en fait, quand on prône une utopie, c'est on veut que ça arrive. Prenez Thomas More, Utopia, toutes les grandes sociétés utopiques, les phalanstères, Proudhon, etc. C'était des gens qui voulaient avoir raison. Il y a quelque chose de fasciste dans l'utopie, quand même, parce que, en fait, c'est peu de gens qui veulent faire le bonheur des autres. Et donc, quelque part, il y a quand même quelque chose d'assez néfaste. Pol Pot, c'était de l'utopie. Hein. Et c'était déplacer les étudiants à la campagne, etc. Enfin, il y avait quelque chose d'assez totalitaire, on va dire. Me paraît la bonne expression. Vous prenez le plan voisin de Le Corbusier. Le Corbusier voulait raser toute la rive droite de Paris. Le Marais, etc. Vous voyez les images, je vous encourage à aller voir. C'était des tours gigantesques. Donc il ne restait rien du vieux Paris. Et pour faire le bien des gens, parce qu'il y a toujours ce truc à la base, c'est faire le bien des gens. Donc effectivement, l'utopie, à la base, est quelque chose qu'on veut réaliser. Bon, moi, si j'étais au pouvoir, par je ne sais quel hasard assez improbable, en tout cas au jour où nous sommes, effectivement, je décréterais volontiers Marseille, capitale de la France, parce que je pense que c'est un projet nécessaire pour le bien des gens. Je pense que ça décontracterait la France de se recentrer sur un périmètre plus latin, de se rapprocher de nos voisins méditerranéens. Et je le ferais de façon autoritaire et ce serait peut-être mal pris. Je pense que pour Paris, et d'ailleurs un des articles qui figurait dans ce chapitre concernait Paris qui devenait d'un seul coup complètement hippie, complètement drogué, livré aux étudiants à la débauche, on donne envie d'y être avec de l'herbe qui pousse dans les rues parce qu'il n'y aurait plus d'argent, etc. Mais on a plus envie de ça que d'un Paris aujourd'hui qui ressemble de plus en plus à Bordeaux. Tout le monde reproche Hidalgo de rendre Paris sale. Moi, je trouve que Paris est beaucoup, beaucoup trop propre. Ça manque de bordel, ça manque de... Enfin, il n'y a pas assez de bruit la nuit. Enfin, je trouve qu'on est en train de s'endormir. Bref, en tout cas, toutes les utopies qu'on revendique dans Big Bang, on les souhaite. On souhaite vraiment les voir se réaliser. Ce sont des projets sérieux qu'on a rendus ludiques pour que les gens aient envie de les lire. Par exemple, les États-Unis d'Afrique, je pense que c'est une idée qu'il faudrait voir arriver. Je pense que l'Afrique pourrait devenir redevenir, puisque c'est quand même le berceau de l'humanité, redevenir le continent phare. Et on pourrait imaginer d'ailleurs une migration à l'envers, c'est-à-dire que des Européens riches qui prendraient des bateaux gonflables pour rejoindre l'Afrique, pour retrouver effectivement cet Éden perdu. C'est-à-dire que le paradis perdu que l'utopie est censée nous rendre, c'est peut-être justement cette Afrique où on est tous nés finalement et où on veut retourner. Donc voilà, oui, toutes les utopies qu'on caresse, à part peut-être celle de l'invasion de la Suisse, qui est un peu guerrière, donc qui est forcément une blague, mais qui était un petit peu une blague de conclusion. Mais tous les autres projets qu'on a racontés, y compris la mise en sommeil de l'humanité, hein, qui est pour sauver le monde, arrangeons-nous pour faire disparaître l'humanité, c'est des projets qui font réfléchir. On se dit, oui, effectivement, si on faisait ça, peut-être que les choses iraient mieux. Parce que l'idée aussi, effectivement, c'est le propre des utopies, encore une fois, c'est de faire le bonheur des gens.
Merci beaucoup, Gabriel Gauthier, pour avoir répondu à mes questions. Encore une fois, j'espère que certaines de ces utopies, du coup, verront le jour dans un futur proche ou peut-être beaucoup plus lointain. Mais qui sait, Marseille peut être capitale de la France un jour.
Peut-être que Marseille est déjà capitale de la France.
Et qu'on ne le sait pas encore.
Bah, ou que
ce n'est pas écrit noir sur blanc.
Voilà, exactement. Et ça peut être ça aussi. On peut regarder, vous demandez aux gens, c'est quoi la capitale des États-Unis ? Ils vont dire New York. Ah bon, Washington, mais on s'en fout de Washington, ça n'existe pas. Vous dites Canada, Montréal, non, c'est pas Montréal, c'est Ottawa, les gens ne savent même pas où c'est. L'Australie, Sydney, non, c'est Canberra. Donc finalement, Marseille, on parle beaucoup plus de Marseille, tout le monde est là-bas, c'est bien plus beau, etc. Par deux, trois monuments, mais ça, les monuments, c'est facile, il n'y a qu'à en construire ou en déménager, et puis voilà, l'affaire sera réglée. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir cette idée de le vrai sens des choses, c'est que les gens soient plus heureux qu'avant. Et je trouve qu'on perd un petit peu cette idée-là en étant manipulé par un progrès qui est pas forcément qu'un progrès lié au quantitatif, à la croissance, au plus, à la vitesse, etc. Alors qu'on peut imaginer une dimension différente qui soit la dimension de quelque chose de plus heureux, plus paisible, plus riche, plus intelligent aussi, quoi. Enfin, voilà, c'est d'où l'utilité de lire des choses, que ce soit Big Bang, ou le Red Bulletin, ou des bons livres qui font qu'on s'améliore, on s'enrichit.
Je suis Marie-Maxime Dricot, c'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté, et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.